Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonsoir et bienvenue sur Zoom Écologie. Vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Antoine Daher. Bonsoir Antoine.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Auteur de Futur, nos futurs, que reste-t-il du cyberpunk ? Antoine, tu es journaliste, tu es auteur, tu es animateur, réalisateur, producteur, je ne sais pas comment tu te qualifies, de l'émission Planète B sur le média Blast, le média en ligne Blast.
Co-auteur.
Co-auteur. Et voilà, et nous sommes en train de finir d'écouter la BO de Matrix qui nous propulse dans un futur sombre, mais non dénué d'espoir. Enfin, pas complètement, et bah, pour commencer fort, car nous sommes sur une radio indépendante qui n'a pas peur d'aller là où ça fait mal, et si tu définissais le cyberpunk ?
Bah, c'est la question facile, ça, parce que définir le cyberpunk, donc effectivement, c'est un sujet que je connais pas mal, parce que je sors un gros bouquin dessus, donc je me lance. Il y a au moins trois définitions qu'on peut en donner du cyberpunk. Cyberpunk en anglais, cyberpunk si on a le bon accent franchouillard, que je vais donc garder, hein, je vais pas faire des anglicismes trop. Principalement, la plupart du temps quand on en parle, c'est pour parler d'un courant littéraire américain, né aux États-Unis, d'auteurs américano-canadiens, dans les années 80, à partir de 1982, défini... principalement autour de 1984-86 et qui a duré quelques années, une petite dizaine d'années à peine, qui a produit beaucoup de romans d'une clique assez bien définie de personnes, parmi lesquelles des auteurs comme William Gibson, Bruce Sterling, plus tard Neal Stephenson, etc., qui ont produit des romans et des nouvelles et qui ont fini par mettre eux-mêmes un terme à cette mouvance littéraire pour dire bon bah maintenant on a fait le tour, c'est bon, c'est fini et donc on peut parler d'autre chose. Et puis après ils ont continué leur carrière, etc. Donc le cyberpunk principalement au départ c'est ça, c'est un courant littéraire assez bien défini, assez bien borné, mais deuxième définition sur trois, c'est aussi devenu après coup une sorte de genre, enfin un sous-genre de la science-fiction qui pour le coup n'était pas limité à la littérature, qui pouvait aller dans le cinéma, qui pouvait aller dans la musique, qui a inspiré énormément de courants artistiques variés, y compris, alors artistiques, mais pas que artistiques d'ailleurs, y compris politiques, y compris philosophiques, on va en parler avec des gens comme Donna Haraway qui ont pu s'en inspirer par exemple, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, et puis voilà, donc un genre de science-fiction, un sous-genre de science-fiction qui finalement a échappé à ses auteurs initiaux, auteurs qui étaient quand même à part quelques cas particuliers, étaient principalement des hommes. Et puis ce genre, finalement, s'est largement diffusé et puis a été ensuite récupéré, réapproprié par quantité d'artistes, hommes et femmes, et puis divers et variés, à travers le monde et qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis enfin, bah, le cyberpunk, du coup, à cette lumière-là, on peut considérer que c'est pas seulement, donc c'est ma troisième définition, c'est pas seulement un sous-genre de science-fiction, ça dépasse la science-fiction, et c'est même un peu une espèce de sous-culture, si on peut dire, hein, une espèce d'objet comme ça, sous-culturel. C'est peut-être pas une sous-culture complète au sens où il y en a d'autres qui peut-être remplissent mieux cette définition, mais c'est une sorte d'objet comme ça qui perdure encore aujourd'hui et qui est originé, qui trouve ses origines dans les années 80.
Et c'est devenu, mais enfin, c'est, on parle très bien dans le livre, en fait, une esthétique. Enfin, il y a eu le cyberpunk est défini par un certain nombre de critères à l'origine et ces critères, en fait, sont devenus une iconicité, enfin un ensemble d'ensemble d'objets qui peuvent être un peu actualisés à toutes les sauces, qui ont été en partie vidés de leur substance. Et peut-être qu'on peut dire aux personnes qui ne savent pas ce que c'est, à quoi ressemble le cyberpunk, leur dire à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'on reconnaît quelque chose de cyberpunk, là, comme ça, une affiche, un film, un livre, qu'est-ce qui peut nous dire « Ah ouais, ça c'est cyberpunk ».
Quel dommage d'être à la radio, parce qu'à la télé, on pourrait montrer, parce que décrire, bon, on peut essayer de décrire quand même avec des mots. Après tout, c'est littéraire à la base, hein, le cyberpunk. Le truc qui a fondé l'esthétique du genre visuellement au cinéma, c'est le film Blade Runner de Ridley Scott, qui est sorti en 1982, très très connu, considéré par plein de gens comme l'un des meilleurs films de science-fiction, et par plein de gens aussi comme l'un des meilleurs films tout court. Donc Blade Runner, premier du nom, après qui a été suivi par une suite bien plus tard, Blade Runner 2049. Et donc bah, qui a posé les bases de ce que c'était visuellement que le cyberpunk. En gros, pour le définir rapidement, pour avoir quelques éléments clés comme ça de repérage, c'est des villes gigantesques sous la pluie, éclairées de lumière artificielle et de pubs au néon gigantesque. C'est des clichés, mais qui sont quand même souvent utilisés. Dans lequel vaquent à leurs occupations des populations semi-désespérées et déprimées et déprimantes, s'entretuent souvent, c'est des personnages armés jusqu'aux dents, qui sont atomisés dans une espèce de capitalisme complètement en roue libre, complètement dérégulé, et qui finalement... a continué à empirer sans cesse et n'a jamais rencontré de mur, n'a jamais rencontré d'effondrement, comme par exemple dans le post-apocalyptique, qui est aussi un genre très populaire de la science-fiction, dans lequel le monde s'est effondré. Bah, dans le cyberpunk, le monde s'est pas effondré, il a fait que empirer, et puis il a empiré à l'infini potentiellement, et on sait, on comprend, on découvre qu'il peut encore empirer beaucoup, et qu'en fait ça va continuer à empirer presque, ça tend vers l'infini en termes de dystopie, quoi. Et donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui et tout ce qu'on connaissait déjà dans les années 80, c'est-à-dire sur le pouvoir des grandes entreprises, sur les collusions entre pouvoir économique et État, sur la technologie invasive, etc., bah, tout ça va empirer à l'infini et on n'aura pas d'échappatoire du tout, quoi. Ce sera des univers très... potentiellement très sombre, quoi. Et donc les grandes œuvres qui ont fondé l'esthétique du genre, c'est des films américains comme Blade Runner, mais aussi des mangas comme Ghost in the Shell, Akira, qui sont les plus connus, par exemple.
Oui, non, l'esthétique, on peut mentionner que c'est très inspiré des grandes villes japonaises,
ouais.
Enfin, qui a vraiment une énorme influence des références à des grandes villes japonaises comme Tokyo. Et surtout que c'est très ancré historiquement dans les années 80, comme tu l'as dit, pour un certain nombre d'œuvres. Et c'est là où ça nous intéresse, et ça m'a intéressé dans ton invitation, pour Zoom Ecology. C'est que ça dit quelque chose de... Pour moi, j'ai appelé ça le Tina Punk. Enfin, y a un peu un truc, c'est vraiment c'est le mouvement culturel et de la sous-culture de Margaret Thatcher, et comme tu dis, du capitalisme qui n'a pas trouvé d'adversaire et de limites, et qui s'est propulsé comme ça, genre, à l'infini. Et donc, tu as titré ton livre en partie « Nos Futurs », parce que bon, c'est le mouvement punk de ces années 80 thatchériennes qui se réclamait du « Nos Futurs », et qui est le paradoxe de la science-fiction. Enfin, « Nos Futurs » et « Science-fiction » peut paraître paradoxal. Et où voulais-je en venir Et c'est là où il y a une tension qui parcourt ton livre. Genre, qu'est-ce qu'on fait de cette absence de futur en partant de cette esthétique-là? Et finalement, qu'est-ce qu'elle devient selon toi? Et où est-ce que ça peut amener?
Bah, justement, en fait, le titre du bouquin, c'est « Futur » avec un « S ». Nos futurs avec un E, parce que c'est donc futurs, ce sont des futurs qui sont proposés par les œuvres cyberpunk, qui sont des futurs variés et quand même différents, même s'ils ont des points communs, c'est d'appartenir à un même genre. Des futurs qui sont nos futurs au sens punk du terme, c'est-à-dire qui sont dénués d'alternatives, quoi. Et effectivement, c'est pas un hasard si le cyberpunk est né dans les années 80, qui est la grande période où l'informatique grand public, alors pas encore grand public dans les années 80, mais l'informatique commence un peu à s'immiscer un peu partout dans tous les aspects de la société, commence en tout cas à montrer un petit morceau des promesses de changement du monde qu'elle va pouvoir apporter. Et en même temps, bah, l'économie, sous l'arrivée massive du néolibéralisme de Reagan-Thatcher, par exemple, bah, en fait, les politiques néolibérales commencent à sonner la fin de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, alors qui n'étaient pas forcément glorieuses au même niveau pour tout le monde, évidemment, mais qui était l'époque de la reconstruction d'après la Seconde Guerre mondiale, et dans laquelle sans doute on avait des... quand même des espoirs que les choses iraient mieux, puisqu'on était dans la reconstruction en Occident, en Europe, etc. Les États-Unis étaient dans une période aussi de faste économique, et encore une fois, sans fantasmer non plus la période, mais disons que les années 80 ont sonné un peu le glas de tout ça, et ont amené ce slogan « There is no alternative » prononcé par Margaret Thatcher comme un slogan de sa politique, pour dire de toute façon, l'Union soviétique ne va pas tarder à s'effondrer. Alors, ils ne le savaient pas, mais de fait, l'Union soviétique s'est effondrée au début des années 90. Et donc, en fait, il n'y avait effectivement pas d'alternative à un capitalisme néolibéral dérégulé et de plus en plus agressif, dont on paye aujourd'hui encore largement les pots cassés, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a toujours pas trop d'alternative à ça. Alors, peut-être que ça va émerger. Le monde change beaucoup et vite en ce moment, donc on va voir. Mais en attendant... voilà, c'est pour ça que le cyberpunk en fait cristallise un peu cette espèce d'état de la pensée là. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est un peu ce que tu poses dans ta question en filigrane. Qu'est-ce qu'il dit du futur, le cyberpunk? Bah, pas forcément grand-chose. En fait, la science-fiction, c'est une de mes hot takes peut-être ce soir. La science-fiction ne parle pas du futur forcément. La science-fiction peut essayer de placer ses intrigues et ses histoires dans le futur. C'est souvent ce qui arrive. Beaucoup d'histoires de science-fiction, la grosse majorité qui se passe dans le futur. Mais en fait, la science-fiction, elle parle du présent. Elle parle toujours du présent, du moment où elle a été inventée, conçue, forgée, écrite. Et donc, le cyberpunk des années 80 parle des années 80. Le cyberpunk des années 2020, il parle des années 2020.
Mais tout en gardant vraiment des codes... des codes un peu similaires, et c'est ce que tu questionnes sur cette dynamique d'avoir un mouvement qui en fait, se réfère sans cesse à ses origines des années 80 tout en étant dans les années 2020, et c'est là où parfois ça grince un peu. Et j'ai beaucoup aimé le fait que tu mobilises un certain nombre de concepts plus théoriques, pas seulement des œuvres artistiques, mais aussi des concepts théoriques dans ton livre, notamment le foreverisme, qui me semble un peu bien illustrer cette problématique, quoi, de faire du cyberpunk en 2020 en mobilisant tous les codes des années 80. Alors, on pourrait parler du jeu cyberpunk de 1077,
ouais,
qui est sorti il y a pas longtemps, qui a été dans le monde du jeu vidéo une très grosse production.
Oui, oui.
Du jeu vidéo, avec un studio fait par un studio très connu, et qui ne raconte pas la même chose que William Gibson, quoi. Bon.
Non, et en fait, ce qui est marrant avec le jeu vidéo Cyberpunk 2077, c'est qu'il a presque privatisé le nom du courant tout entier. Alors, c'est pas le premier à le faire, en fait, il est basé sur un jeu de rôle qui s'appelait déjà plus ou moins comme ça. Alors, c'était pas 2077, mais c'était déjà Cyberpunk 2020 à l'époque, donc évidemment. Ils ont un peu réactualisé la date, mais l'idée est à peu près la même. Mais donc oui, ils ont presque privatisé le terme pour en faire une sorte d'absolu qui est un peu la carte postale absolue du genre, puisque tous les clichés sont là, mais alors de manière vraiment... c'est un métronome de précision tellement les clichés sont présents. Et en même temps, à part des clichés, on a du mal à voir ce qu'il y a beaucoup plus que des clichés, justement. Ça en demeure pas moins que c'est sans doute un bon jeu vidéo d'action RPG. Voilà, en termes de gameplay, je dis pas, mais en termes d'univers, effectivement, il va pas, ou de récit, il va pas faire grand-chose de plus que ce qui avait été fait par le passé. Le foreverisme, c'est... ça dépasse même le cyberpunk. En fait, c'est un concept qui a été inventé par un philosophe, je crois qu'il est philosophe américain, qui s'appelle Grafton Tanner, qui a créé un bouquin qui s'appelle Foreverisme, qui est distribué, enfin édité en France par les éditions Façonnage. Un petit bouquin très très éclairant, très très bien, et qui en fait parle de la nostalgie comme un ressort de création artistique dans le milieu de la pop culture d'aujourd'hui. Pas que de la pop culture, mais des industries culturelles, on va dire. Et le terme le plus important des deux, c'est industrie, c'est pas culturel. Et donc, le foreverisme, c'est la manière qu'ont les industries culturelles, mais vraiment pas que dans le milieu de la science-fiction et du cyberpunk, mais la manière qu'elles ont de s'emparer d'œuvres du passé pour non pas seulement les ressortir, mais les réactualiser constamment. Et l'exemple le plus évident de ça, c'est Star Wars, qui a été racheté pour la bagatelle de je sais plus combien de milliards de dollars par Disney il y a quelques années maintenant. Et quand ils en achètent pour, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plusieurs milliards de dollars, quand on rachète Lucasfilm, c'est pas pour l'afficher dans sa chambre, c'est pour rentabiliser l'investissement. Et donc, l'investissement est en train d'être rentabilisé à grands coups de films, de séries, de reboots, pas des reboots, mais de suites, de préquels, de séries, de spin-off et tout ce qu'on veut, de produits dérivés, pour rendre cet univers... pour faire fructifier cet investissement, pour faire vivre la marque, comme ils disent au département marketing de chez Disney, et rentabiliser la marque, pour monétiser la marque. Mais du coup, l'effet culturel que ça a auprès de nous, pauvres publics, qui subissons ça, et je dis Star Wars, mais en fait, c'est le cas avec énormément d'œuvres du même, qui subissent le même genre de démarche, c'est-à-dire le fait d'être remise au goût du jour, republiée et actualisée sans cesse. Et ben, en fait, ce que ça provoque d'un point de vue culturel, c'est que ça va nous enfermer dans une espèce de présence permanente d'un imaginaire qui a été inventé, Star Wars, dans les années 70. Et donc, qu'on peut éventuellement actualiser, on peut faire des films qui peuvent être des bons films, je dis pas, alors c'est pas le cas de la dernière trilogie, mais voilà, il y a des séries qui se démarquent un peu, il y a Rogue One qui a eu plus de succès que la dernière trilogie, etc. On peut actualiser un peu, mais n'empêche que ça fait toujours exister quelque chose, et en fait ça, factuellement, ça bouche le paysage, quoi, pour l'arrivée de quelque chose d'autre. Et donc c'est aussi pour ça que Blade Runner 2049, qui est un film qui a des grandes qualités, c'est une suite de Blade Runner. Est-ce que c'était pertinent, est-ce que c'était une bonne chose de faire une suite de Blade Runner? Bon, les fans sont servis, et d'ailleurs c'est pour ça que le film existe, mais qu'est-ce que ça donne derrière, quoi? Et on peut comme ça égrener une quantité invraisemblable de franchises, de licences qui sont comme ça remises au goût du jour. Parfois on nous dit le préquel de la fameuse saga culte, etc. On savait même pas que c'était une saga, on savait même pas que c'était culte, en fait c'était juste oublié, mais voilà, ils font de l'argent avec ce qu'ils peuvent, et ils sont pas tous aussi riches que Disney pour s'acheter des trucs porteurs, quoi.
Oui, cette reconduction à l'infini de tropes ou de formules mythique qu'on essaye de faire perdurer vraiment jusqu'au bout et qui empêche de faire émerger d'autres choses, du coup, ça reconduit sans cesse des images et des structures de l'imaginaire qui étaient déjà parfois discutables, voire déjà périmées à l'époque de l'œuvre originelle. Et il y a tu fais une citation que j'ai trouvée vraiment très, très pertinente dans ton livre, de l'urbaniste Mike Davis, qui parle de Blade Runner. Donc, Blade Runner, donc le film de Ridley Scott, adapté d'un livre de Philip K. Dick, dans lequel donc, il y a ces immenses immeubles vraiment gigantesques qui forment Los Angeles, car le film veut s'ancrer dans la ville connue qu'est Los Angeles. Et donc, Mike Davis dit... En fait, sa visio hypertrophiée d'un downtown art déco de Los Angeles ne paraît pas être grand-chose d'autre qu'un cliché romantique quand on la compare avec les bidonvilles sauvages qui se dressent en ce moment. Et en ce moment, dans l'écriture, c'est 98. Dans la petite couronne des banlieues d'après-guerre en déclin. Blade Runner n'est pas tant le futur d'une ville que le fantôme des rêveries du passé. Et je me suis dit, oui, c'est vrai qu'en fait, c'est extrêmement pertinent. On a la tête remplie de ces images de grandes villes avec des immeubles gigantesques et des gratte-ciels, mais en fait qui n'est que le fantasme d'une industrie culturelle, d'un certain milieu social, et on ne voit jamais ces immenses banlieues pavillonnaires dans les films de SF et dans les films cyberpunk. En tout cas, c'est très rare.
On pourrait les voir, mais en fait... Là, Mike Davis, dans son bouquin qui s'appelle Au-delà de Blade Runner, Los Angeles et l'imagination du désastre, qui est un tout petit bouquin paru chez Alia et qui est super bien. Il a écrit des bouquins sur Dubaï, sur Los Angeles, plusieurs, etc. Lui, dans son analyse, il semble déplorer le fait que Blade Runner ne soit pas une image fidèle de ce que est devenu dans le futur Los Angeles. C'est-à-dire, comme lui se situe plus ou moins 10 ans après, enfin 10-15 ans après, il dit, en fait, le monde réel n'a pas tendu vers Blade Runner, donc, entre guillemets, ou sous-entendu, Blade Runner serait dans l'erreur puisqu'il n'a pas bien figuré l'avenir de ce qu'aurait été Los Angeles. Mais en fait, c'est se tromper, c'est penser, enfin, à mon avis, c'est penser que Blade Runner en avait quelque chose à foutre que de prédire le futur de Los Angeles. Or, je ne pense pas que ce soit du tout le sujet. Blade Runner, c'est effectivement un cliché romantique, comme il dit, oui, c'est un film romantique au sens, c'est un film sensible, presque sensuel si on veut, enfin qui va nous plonger de manière hyper immersive dans une espèce d'image un peu fantasmagorique et qui ne cherche pas du tout à prédire l'avenir, même si il prend le prétexte pour ça de mettre son action dans l'avenir. Et il dit, ça se passe, alors je crois que c'est en 2019, dans mon souvenir, je confonds peut-être, mais il se place dans le futur, mais en vrai, c'est un prétexte. C'est évidemment une image romantique, expressionniste presque.
Oui, c'est ça, parce que Ridley Scott aurait pu se dire que l'avenir de Los Angeles, c'était ce qu'il voyait, enfin ce qui pouvait être vu à Tokyo, si on avait envie de le voir, c'est-à-dire en fait une mégalopole avec certes des gratte-ciel à des endroits, mais aussi
des banlieues de mobilhomes.
Oui. Des banlieues qui s'étendaient très loin.
Mais en fait, il le fait un peu, mais il comprime tout ça sur l'espace d'un film de moins de 2 heures. Donc en fait, ça tient moyennement la route comme... En fait, si on prend toutes les idées qu'on peut avoir, toutes les angoisses qu'ils pouvaient avoir à l'époque sur leur futur, etc., la présence du Japon, de la langue japonaise, etc., bon, bah, finalement, c'est plutôt la Chine qui a eu la Chine qui a eu une explosion économique et qui est venue concurrencer les États-Unis sur le plan de la domination économique mondiale. À l'époque des années 80, c'était le Japon qui était la puissance émergente et qui faisait flipper les Américains, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il mettait des ramen. Harrison Ford, il mange des ramen et puis il est comme ça entouré par des espèces de caractères japonais autour de lui. Bon, aujourd'hui, ce serait peut-être des caractères chinois, mais ça ne changerait pas fondamentalement le fait que c'est des Américains qui se projettent sur leurs angoisses par rapport à leur domination économique mondiale, quoi.
Et nous allons continuer à parler de Blade Runner et de plein d'autres choses, mais après une petite pause musicale qui nous emmène toujours dans la contre-culture. Vous êtes toujours sur Zoom Écologie, c'est-à-dire sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3, où je discute avec Antoine Daher, auteur de Futur avec un S, nos futurs sans S, que reste-t-il du cyberpunk ? Nous parlions de Blade Runner, juste avant ce morceau de Vangelis, donc de la BO de Blade Runner, le premier du nom de Ridley Scott. Et bah pour continuer, j'aimerais parler un peu de la question de l'écologie dans Blade Runner, qui en fait, peut aussi concerner la question de l'écologie dans le cyberpunk. Moi, ce qui m'a frappé dans l'adaptation du film, car Blade Runner, en fait, à l'origine, est un livre de Philip K. Dick de 64, 68, je pense, des années 60.
Dans ces eaux-là, oui, dans ces eaux-là.
Qui s'intitule en français « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?» Et bon, il faut dire que Ridley Scott n'a jamais lu le bouquin de K. Dick. Donc il a travaillé à partir d'un scénario qu'on lui avait filé, parce que c'est comme ça qu'Hollywood ça marche, les producteurs reçoivent des scénarios de scénaristes et ensuite les dispatchent à des réalisateurs qui leur semblent appropriés. Donc Ridley Scott n'avait pas lu le livre de K. Dick. Et de fait, le film s'éloigne beaucoup, hein, de nombreux points du livre. Et l'un des gros points de divergence, c'est que dans le livre de Philip K. Dick, la question animale est centrale. C'est un monde saccagé où les animaux ont quasiment tous disparu. Extinction massive, bon, ça nous rappelle hélas quelque chose des actualités et du futur qu'on nous promet. Mais donc extinction massive des animaux, donc les personnages humains, dont le personnage principal qui s'appelle Descartes, comme dans le film, sont obsédés par l'idée de rencontrer des animaux, des vrais animaux vivants, et d'en avoir chez soi. C'est devenu un signe de prestige social énorme, vu qu'il n'y en a quasiment plus. Et donc c'est pour ça que les animaux sont remplacés par des animaux électriques, donc des androïdes, pas des androïdes justement, mais des robots, quoi, animaux. Et donc ça, c'est une dimension qui a complètement disparu dans le film, et ce que je trouve assez symptomatique pour moi, de comment je vois le cyberpunk, tu me diras ce que tu en penses, de ce mouvement des années 80 où l'écologie, c'était l'environnementalisme. Où finalement, je crois qu'il y a une espèce de retour de bâton dans les années 80, où on oublie un peu les grandes causes écologiques des années 70, et puis il y a le trou de la couche d'ozone, il y a les pluies acides, il y a la pollution de l'air. Donc il y a ces thématiques écologiques qui sont importantes, mais qui sont finalement un peu déconnectées de l'ensemble, quoi. De l'écologie en tant que totalité, que relation, interrelation et chaîne d'interdépendance. Et voilà, on dit, oui, ah oui, les villes sont polluées, les gens mettent des masques, et puis il y a des pluies acides, et bon, c'est pas cool, mais on oublie un peu le schéma global. Et je sais pas ce que t'en penses.
Sur les mouvements écologistes et leur mutation dans les années 70-80, j'en pense rien. Je connais pas bien ce sujet.
Sur la façon dont le cyberpunk s'empare de la...
Mais alors voilà, sur la façon dont le cyberpunk parle de ça, là par contre je connais un peu. En tout cas, j'ai des idées sur la question. Et le cyberpunk, en fait, comme son nom l'indique, mais il est aussi trompeur, il se fait plus l'écho du mouvement punk, enfin de la contre-culture punk que d'autres contre-cultures, et par exemple qui étaient très concernées par la question écologique, la contre-culture hippie qui précédait le punk, et auquel le punk est en partie une réponse aussi, beaucoup plus nihiliste et beaucoup plus frontalement désespérée que les hippies qui avaient une volonté de changer le monde et de faire contre-culture au sens faire sécession avec le monde qu'ils rejetaient pour construire un monde différent. Donc on se rend compte aujourd'hui à quel point ils avaient quand même tout compris. Et le punk, plus frontalement, est un genre musical, enfin le punk rock, mais la contre-culture punk est une contre-culture qui est plus frontalement nihiliste et plus frontalement désespérée, et qui, d'une certaine manière, endosse le slogan de Margaret Thatcher qui dit qu'il n'y a pas d'alternative, et en échange de cette absence d'alternative, décide de mettre dans une énergie dévastatrice et nihiliste dans leur musique, discordante, provocatrice, etc. Tout ce qu'ils ont à hurler de rage et puis de désespoir, quoi. Malgré tout, le cyberpunk, malgré le fait qu'il a punk dans son nom, ça n'est pas non plus une traduction littérale de ça en science-fiction. C'est pas du punk science-fictif. Ça existe aussi, mais c'est autre chose. Le cyberpunk, il est au moins autant hippie que punk, parce que les hippies, c'est quelque chose qu'on oublie parfois un peu aujourd'hui, étaient aussi très précurseurs, notamment dans ce qu'on appelait pas encore la Silicon Valley, mais dans le berceau californien, San Francisco, capitale du mouvement à l'époque, du mouvement hippie, etc., étaient un peu déjà précurseurs de ce qui était pas encore devenu Internet, mais qui allait finir par le devenir, et puis ce qui était aussi toute la mouvance libriste qui a découlé des débuts d'Internet, qui existe encore aujourd'hui, mais aussi de la Silicon Valley, et puis certains ont fait une alliance maudite avec le capitalisme, le techno-capitalisme, qui aujourd'hui finit d'ailleurs de devenir du techno-fascisme, donc voilà, c'est ce qu'on appelle quand même vieillir mal. Mais voilà, et donc le cyberpunk se fait écho de tout ça, parce qu'à la fois il a ce côté nihiliste désespéré par rapport à la technologie, par rapport au monde dans lequel il évolue, dans lequel il prend racine, mais en même temps il a une fascination qui est indéniable envers les technologies et les hautes technologies, et en particulier les réseaux. Et donc c'est le cyberespace, terme qui est un peu ringard maintenant, mais qui avait été inventé par William Gibson à l'époque, qu'il l'imaginait plus, le cyberespace, comme un trip psychédélique, une manière de se connecter à d'autres personnes lointaines pour partager un monde de pur esprit, etc., plus que comme vraiment un truc informatique. William Gibson, selon la légende, a écrit Neuromancien, donc son bouquin cyberpunk le plus connu et le plus fondateur, qui a fondé le genre cyberpunk. Il l'a écrit sur une machine à écrire, il n'avait jamais approché un ordinateur de sa vie à l'époque, quoi. Et en fait, il ne connaissait pas l'informatique, mais ça le faisait triper, enfin, au sens littéral, ça l'intéressait. Et donc, il avait des envies de mettre ça en scène, mais en laissant aussi beaucoup divaguer son esprit artistique et puis un peu intuitif, comme ça, en mettant ce qu'il pensait sur la page et puis en imaginant. Voilà. Donc en fait, ça, finalement, dans le cyberpunk, le cyberespace n'a pas grand-chose à voir avec Internet d'aujourd'hui, où c'est assez... C'est assez concret. Aujourd'hui, on voit bien ce que c'est Internet, même si c'est nébuleux, mais voilà, c'est beaucoup plus flou dans la tête, y compris des auteurs qui ont inventé le cyberespace quand ils l'inventent, quoi.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant de voir l'évolution de William Gibson, qui, dans les années 2000, j'ai plus l'année en tête, a écrit une nouvelle trilogie qui est beaucoup moins cyberpunk que ses œuvres précédentes, en termes d'esthétique, dont le premier tome, c'est Identification des schémas. Et pour le coup, il s'empare de l'Internet existant, ce qui donne un côté d'ailleurs très très rétro quand on lit maintenant, parce qu'en gros, c'est l'Internet des forums, quoi. Il y a des pensées, des idées un peu obscures qui forment la trame principale d'identification des schémas et qui nichent dans les recoins des forums Internet. Et c'est vrai que bon, les forums, maintenant, ça appartient un peu, pas complètement, mais comme un peu à l'archéologie d'Internet. Et là, on sent qu'il s'était comme beaucoup plus ancré dans ce qu'était l'informatique réelle, quoi. Très, très concret. Mais pour rester sur Gibson, je vais en profiter pour parler du coup de cette vision du punk désespéré et de cette idée que le cyberpunk est une dystopie. Que tu cites Gibson à la page 355. Où il dit « J'ai toujours été déconcerté par l'hypothèse selon laquelle ma vision était fondamentalement dystopique. Je soupçonne que les gens qui disent que je suis dystopique doivent mener une vie complètement protégée et chanceuse. Le monde est rempli d'endroits bien plus désagréables que mes inventions, des endroits où les habitants de la Conurbe considéreraient comme une punition d'être réinstallés, et beaucoup de ces endroits semblent empirer régulièrement. » Il dit ça en 2011, très, très précisément. Et c'est vrai que dans le cyberpunk, bah, on en revient à ce truc de l'iconicité, quoi, d'une espèce d'esthétique qu'on duplique pour faire de la fiction ou de la publicité ou tout ce qu'on veut. Et en qualifiant donc de vraiment terrible et de très sombre, mais en oubliant, bah, comme tu dis, ça parle du présent, et en fait, c'est le présent depuis un certain point de vue. Et ça que je trouve très bien dans ton œuvre, c'est que donc, c'est un certain point de vue, et toi, tu vas proposer d'autres points de vue dans la suite de ton livre. Et tu vas justement dépasser le cyberpunk en tant que en gros, point de vue occidental, effrayé par cette peur, ce fantasme de la déchéance. Quoi. En fait, c'est ça le cyberpunk. Ouais.
Oui, c'est le fantasme de la déchéance, mais c'est aussi une déchéance qui n'en finit pas et qui n'est jamais complètement achevée. Enfin, comme je disais, contrairement au post-apocalyptique, alors j'ai peut-être... J'aimerais bien peut-être faire aussi des trucs sur le post-apocalyptique, mais je m'égare. Mais le post-apo, c'est plus frontalement un fantasme d'échéance dans lequel on en revient à une espèce de retour à ce qu'on suppose être un état de nature, ce qui est évidemment très bancal, mais qui est, voilà, on retourne avec des pierres taillées, quoi, et puis tout le reste disparaît, et puis c'est des questions de vie ou de mort, etc. Là, c'est un vrai fantasme de déchéance. Le cyberpunk, c'est un fantasme de déchéance, mais pas que, c'est aussi, une idée d'évolution permanente et puis de fuite en avant, quoi. Et donc, à ce titre-là, bah, la citation de Gibson que j'ai mis dans le bouquin à la page 355, n'est-ce pas, c'est aussi une manière de montrer que les personnages de ce genre, et puis les personnages de fiction en général, prennent le monde dans lequel ils sont, pas pour la même chose que ce que nous on prend. C'est eux, c'est leur monde, en fait, c'est leur milieu, et c'est un milieu qui nous paraît peut-être dystopique parce qu'il extrapole très largement les travers de notre monde actuel, mais en fait, c'est un milieu dans lequel eux évoluent, dans lequel eux ils tirent des lignes de fuite, et puis parfois, et c'est tout le sujet d'ailleurs, des perspectives qui sont aussi émancipatoires, quoi. Et c'est tout le problème, c'est d'un monde qui semble dystopique, qui est largement dystopique quand les pluies acides baignent comme ça des villes où il fait toujours nuit et où les gens s'entretuent pour un rien, pour des questions d'argent et de régler leurs dettes, etc., comme dans certains jeux de rôle ou romans du genre, ou dans nos romanciens, hein, où des hackers font des espèces de casses virtuelles en comprenant même pas trop eux-mêmes, et à la fin ils se rendent compte qu'ils se sont évidemment fait avoir par le commanditaire qui, bon, enfin, donc, évidemment c'est pas souhaitable, mais en même temps on peut comprendre en creux ou de manière explicite dans toutes ces œuvres un certain nombre de perspectives qui sont pas que négatives, quoi, et qui sont aussi des manières de prendre acte de la dystopie réelle dans laquelle on est aujourd'hui, dans laquelle ils étaient dans les années 80, parce que chaque époque a sa dose de dystopie sans doute, et prendre acte de cette dystopie là de cette situation dans laquelle on est, et se demander concrètement qu'est-ce qu'on fait, quoi, de manière beaucoup plus peut-être bouchée, enfin dans un monde qui est plus bouché que d'autres type de science-fiction qui serait plus ouvert vers des futurs possibles, etc. Mais c'est pas un futur possible, c'est le présent présent, quoi. Le présent extrapolé, le présent ultra, ultra réel, dans lequel, paradoxalement, aussi dur et complexe que ça puisse être, aussi inextricable que puissent être les situations de domination qui s'exercent, qui sont très très inextricables souvent dans ce genre-là, et les personnages, ils arrivent presque toujours à tirer de manière ambiguë et paradoxale et parfois foireuse leur épingle du jeu. Et parfois, c'est juste un peu, et puis ils se rendent compte que quand même ils se sont fait niquer et que finalement ils se sont pas tant libérés que ça. Et parfois ils se libèrent pour de vrai. Et parfois ils se libèrent, mais c'est une manière d'accomplir un espèce de devenir entrepreneur de soi-même. Ils font fortune ou ils deviennent le guerrier le plus puissant de je sais pas quoi. Enfin voilà, et donc si on pense à Gunm par exemple. La série de manga qui a été adaptée sous le nom Alita Battle Angel au cinéma, un film vraiment pas ouf. C'est très ludique, c'est un monde désolé, horrible. Gali, qui est l'héroïne, c'est une cyborg récupérée dans une décharge qui va se retrouver avec des membres greffés qui lui servent d'armes, etc. Et elle va détruire tous les espèces de mercenaires ultra-violents qui s'en prennent à elle, etc. Le manga, il est assez ludique, c'est assez marrant à lire, c'est jamais triste, quoi. Enfin, par contre, leur situation, évidemment, on voudrait pas la vivre. Et en même temps, à la fin, d'une certaine manière, ou tout au long d'ailleurs du manga, ça se déroule plutôt bien pour les personnages. Et en même temps, quelle est cette émancipation? C'est devenir un guerrier plus violent que les autres. Bon, c'est un peu questionnable aussi, quoi. Donc voilà, c'est des émancipations qui sont toujours questionnables, toujours sujettes à interprétation, mais qui, à mon avis, font le sel aussi du genre. C'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite, quoi.
C'est intéressant que tu parles des combats et en plus que tu parles de Gundam, où le protagoniste principal est la protagoniste. C'est une jeune femme cyborg. C'est là où j'avais envie d'aller un peu te chercher dans le cyberpunk, c'est que c'est assez frappant au début quand tu parles des fondations du genre, où au fait tu cites, je crois, quasiment que des auteurs hommes. Ouais. Et là, il parle donc le cyberpunk comme un endroit où finalement beaucoup de problèmes se résolvent par la violence, la confrontation, la domination, et puis ouais, si jamais ça se passe bien, ça permet d'avoir des plus grosses armes, des plus grosses augmentations cybernétiques et un plus gros compte en banque. Et donc, est-ce que finalement le cyberpunk, c'est pas un peu un truc de gros bonhomme? Et
À l'origine, sans doute. Hein. À l'origine, sans doute. Et après, sur le destin du genre et l'évolution du genre sur la durée, pas tant que ça. Parce que en fait, il y a de nombreuses autrices, des artistes femmes, etc., qui s'en sont emparées sur la durée. Moi, je suis très fan du travail en littérature française de Catherine Dufour ou Sabrina Calvo, par exemple, qui sont des autrices actuelles, qui font du cyberpunk actuel, qui s'étiquettent pas forcément comme ça, mais qui, pour moi, réactualisent vraiment la démarche cyberpunk, mais pas les clichés d'une époque reculée maintenant, hein, qui sont les années 80, comme le font des jeux vidéo célèbres ou autres, ou des jeux de rôle. Donc il y a beaucoup de femmes qui s'en sont emparées, qui ont trouvé des choses à dire et qui ont trouvé là-dedans un terreau fertile pour faire des choses intéressantes. Les réalisatrices les plus cyberpunk et les plus intéressantes dans le genre, c'est les sœurs Wachowski, qui ont fait la trilogie, et maintenant quadrilogie Matrix. Alors il n'y a que Lana Wachowski qui a fait le quatrième, mais elles étaient deux à faire les trois premiers. Donc voilà, c'est le meilleur film du monde de toute façon, mais c'est également la quintessence du cyberpunk, c'est Matrix, premier du nom. Le 2 et 3, on peut déjà plus débattre, mais le premier, il est incroyable. Et voilà, donc c'est assez universel finalement, parce que ça témoigne d'une situation qui est la nôtre, celle d'être pris au piège d'un monde dystopico-capitalisto-technologique, quoi, et militaire également, enfin militarisé, dans lequel la militarisation n'est pas que le fait de forces armées, mais aussi du quotidien et de personnages qui s'entrefoutent sur la tronche, etc. Et ça, en fait, je pense que ça n'est pas genré. Par contre, il est vrai que hommes ou femmes, les artistes du genre ont beaucoup travaillé des thèmes souvent virilistes, souvent fascinés envers des technologies guerrières et destructrices, etc., qui sont généralement accolées à des notions plutôt masculinistes et virilistes, quoi. Et pareil pour le capitalisme et le fait. Donc, et Matrix, aussi génial soit-il, est quand même un film qui fétichise la violence, qui fétichise les armes à feu, etc. Et on peut le dire aussi, en fait, on peut aimer quelque chose et considérer qu'il a quand même des points d'accroche et de discussion.
Discussion que nous allons continuer après une petite pause musicale.
L'humeur est grise et le ciel est toujours bouché. Je suis une enfant de la crise. J'ai fait mes armes à ses côtés. J'ai tout connu, les grands sommets, la possession, la décadence. J'ai pris le temps de rêvasser, je crois. J'ai perdu la cadence. Quand les murs se sont effondrés, nous avons cru pour un instant. Enfin maître du monde, l'humilité de l'Occident. Les glorieuses n'avaient laissé que de la poussière et des cendres. À descendre. Toi là-bas, ne sens-tu pas dans l'air, j'entends monter les voix, le monde est à refaire. Toi là-bas, tout est si loin, derrière, ne te retourne.
et c'était Mélissa Mel. Vous êtes sur Zoom Écologie, fréquence Paris Pluriel 106.3. Antoine, qui a choisi la, qui est notre invité ce soir, qui a choisi la musique, peux-tu me rappeler le titre que j'ai évidemment malencontreusement oublié ?
C'était Les Enfants de la Crise de Mélissa Mel. Ça parle de vivre sous la crise permanente. C'était adapté au cyberpunk.
Complètement. Et là, pour cette dernière partie d'émission, on va essayer de quitter le côté un peu trop plombant, peut-être, que peut revêtir une partie du cyberpunk, ou même peut-être le cyberpunk en général, et aborder un point qui traverse le livre, qui va nous amener vers un peu ce qui est la troisième partie du livre, on va dire. Et j'aimerais bien que tu nous parles de Mark Fisher, qui est un autre auteur que tu sollicites beaucoup dans ce livre et qui propose justement une façon de relire l'enfermement du cyberpunk pour en sortir. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'ai compris.
Ouais, Mark Fisher, c'est une grosse inspiration. C'est un auteur britannique qui est décédé il y a quelques années et qui était philosophe spécialisé dans la philosophie de la pop culture. Il a beaucoup écrit sur la musique, etc. Et il a écrit deux bouquins fondateurs qui m'ont amené à moi-même écrire celui-là sur le cyberpunk. C'est un premier qui s'appelle Le réalisme capitaliste et un deuxième qui s'appelle Spectre de ma vie, et c'est sur la dépression, la anthologie et les futurs perdus. Pour dire en gros pourquoi ça m'intéresse par rapport à ce sujet-là, en fait, Mark Fisher, ce qu'il appelle le réalisme capitaliste, c'est en gros un espèce d'état de la culture actuelle sous régime capitaliste dans lequel on a l'incapacité, donc ça va avec le foreverisme de Grafton Tanner dont on parlait tout à l'heure, dans lequel la culture a beaucoup de mal à se renouveler et ne peut plus se renouveler, ne peut plus faire ce que lui appelle articuler le présent. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement articuler le présent, je ne sais pas, mais sans doute c'est donner des billes, en fait la culture pourrait donner des billes de compréhension du monde dans lequel on vit, pour vivre ensemble et pour mieux se projeter dans le monde, dans peut-être le futur, etc., en ce qui concerne ces littératures-là du futur. Et donc lui, ce qu'il appelle le réalisme capitaliste, c'est pour dire aujourd'hui, en gros, la culture fait du surplace, et selon la phrase bien connue, dont l'auteur précis est un peu perdu, enfin on ne sait plus trop qui a dit cette citation en premier, mais bon, la phrase bien connue, c'est « il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Et donc effectivement, le cyberpunk n'imagine ni l'un ni l'autre, parce que le monde empire et le capitalisme aussi. Donc finalement, il n'y a pas ni fin du monde ni fin du capitalisme, et il n'y a pas d'alternative, pour reprendre encore une fois Margaret Thatcher, quoi. Et donc Mark Fisher, il pose ça, et puis lui, il parle pas spécifiquement du cyberpunk, mais il parle de la musique, il parle de la nostalgie marchandisée à l'infini, etc. Et dans son autre bouquin qui s'appelle Spectre de ma vie, de sa vie à lui, il parle de dépression, mais il parle aussi de comment les genres musicaux anciens et comment les genres culturels anciens continuent à exister sous la forme de ce qu'il appelle une hantologie, avec un H, comme dans hanter, le verbe hanter, comme les fantômes, en reprenant le concept de Jacques Derrida, bref, pour dire en fait, ce qui n'existe plus continue à avoir une puissance d'agir. Et donc un genre disparu peut avoir une puissance d'agir, et donc le cyberpunk, qui est sans doute un peu dépassé, qui est sans doute un peu de l'ordre du cliché, du nanar, y a énormément de films très nanardisants, très, très mauvais, quoi, qui ont été faits, etc. Ça a été usé jusqu'à la corde, c'est sans doute complètement fini et mort et enterré, mais malgré tout, le cyberpunk nous hante encore. Le cyberpunk continue à exister en pointillé de tout ce qui est fait dans la science-fiction, et on en retrouve des traces un peu partout, comme des clichés qui sont mobilisés par les auteurs et les autrices, parfois sans trop y penser. Et ça, c'est un problème quand c'est utilisé sans y penser. Ce qui est bien, c'est quand c'est réinvesti et réinventé, évidemment, quoi. Donc voilà, le concept de anthologie, c'est comment ce qui n'existe plus ou ce qui n'existe pas encore peut exister et continuer, tout en n'existant pas, peut continuer à avoir une influence, quoi. Comme un fantôme, quoi. Il est mort et pourtant il est encore là.
Et dans ton livre, tu proposes des pistes sur, vers ce que d'autres artistes ou d'autres penseurs ont proposé, justement, ce qui pourrait exister, ce qui a pu exister. Et vraiment, il y a plein de références. Je trouvais ça assez fascinant, et notamment plein de références non occidentales. Et là, il y avait quelque chose de très foisonnant et de très riche, où tu parles de Michael Rock, un auteur de science-fiction caribéenne, mais tu parles aussi d'indo-futurisme. Là, tu montres qu'il y a vraiment plein de choses qui se passent, quoi, qui permettent de sortir des clichés, justement, et espèce de ressassement sans fin du cliché états-unis-japonais, on va dire. Est-ce que tu veux en dire quelques mots?
Ouais, bah en fait, la question que je me posais à la fin, donc le sous-titre hein, de mon bouquin, c'est « Que reste-t-il du cyberpunk ?» Et donc, bah, au moment, il fallait répondre à la question, quoi. Que c'est bien gentil de tourner autour du pot, mais qu'est-ce qu'il en reste au final? Est-ce que quelqu'un seulement se pose cette question? En tout cas, moi, je me la suis posée. Et donc, il en reste cette anthologie, c'est-à-dire cette espèce de fantôme qui vient produire à la chaîne des films Netflix et des séries. Là, Netflix, ils ont sorti une quantité de reboots sous forme de séries animées, de Terminator, de Ghost in the Shell, de un peu toutes les grandes sagas comme ça. Elles sont toutes plus creuses et vides. Je vais même pas dire mauvaises, tellement il y a rien. En fait, c'est même pas mauvais, c'est juste inexistant. Ils en ont sorti plein comme ça. Bon, donc en fait, si le cyberpunk c'est ça, effectivement, qu'est-ce qu'il en reste? Il n'en reste rien, quoi. Mais par contre, si on décale un petit peu le point de vue et qu'on se demande qu'est-ce qu'il reste, non pas de l'esthétique cyberpunk avec tous les Terminator et machin, mais plutôt de la logique cyberpunk, de la colonne vertébrale de l'origine, quoi, et de cette démarche qui est d'être à la croisée de l'art, de la politique et de la technologie, et ben là, en fait, on trouve énormément de choses. Et moi, j'avais à cœur de proposer ces choses-là en les proposant depuis des marges, enfin, ce qu'on peut considérer comme étant des marges créatives, culturelles, et donc, fatalement, ce qui était des marges dans les années 80, des auteurs inconnus au bataillon, qui avaient tout approuvé, auteurs ou des réalisateurs, des réalisatrices, etc., comme les Wachowski quand ils ont fait Matrix, comme Gibson quand il a fait Neuromancien et tout, c'était des jeunes qui avaient tout approuvé. Et bah aujourd'hui, ils sont devenus centraux, tous ces artistes-là. Ils sont hyper connus, ils ont fait des blockbusters énormes. Katsuhiro Otomo qui a fait Akira, il a changé le monde de la BD à lui tout seul, à tout jamais. Ils ne sont plus marginaux, ils sont devenus centraux. Et donc, en décalant le regard, on pouvait trouver énormément de choses, et j'en ai trouvé plein. C'est pas du tout exhaustif, mais j'essaye d'en lister comme ça certaines. Et donc, effectivement, en Inde, tu as des artistes un peu inconnus de nous, parce qu'à moins de s'y connaître, on n'a pas forcément le regard porté vers elles et eux, qui utilisent l'IA pour imaginer le futur de l'Inde, qui est un sous-continent, un maxi-pays ou un semi-continent, selon comment on le regarde, qui est absolument gigantesque et dans lequel la technologie joue un rôle énorme. Et donc, en s'inspirant de l'afro-futurisme qui existe depuis plus longtemps, et ben, y a des artistes qui inventent l'indo-futurisme. Et ça prend moins la forme de BD, manga, roman et film tels que nous, on considère être les médiums classiques de la science-fiction. Mais ça prend plutôt la forme de, alors ça peut être de la publication sur internet, des créations générées par IA, ça peut être de l'art contemporain, ça peut être de la peinture, ça peut être des trucs extrêmement variés, de la musique parfois. Parfois pour nous, c'est même pour moi, j'ai étudié la question, mais c'est quand même dur d'accès, quoi, parce que je comprends pas trop le lore, quoi, je sais pas trop de quoi il est question, mais c'est fascinant. Et puis en fait, ils inventent plein de choses qui sont au croisement, donc je répète, entre art, technologie et politique. Alors soit pour endosser un nationalisme indien et propulser une des visions futuristes indiennes qui soit complètement affranchie de la tutelle occidentale et notamment coloniale britannique, soit au contraire pour critiquer ce nationalisme-là. Donc il y a des lignes de force, des affrontements là-dedans, etc. Et puis donc ça, c'est pour le côté décentrer le regard pour aller dans des espaces culturels différents. Mais on peut aussi décentrer le regard en Occident pour aller dans des espaces culturels qui sont en fait marginaux aujourd'hui et qui sont pas... la BD, le roman, les grandes formes comme ça, la musique, les grandes formes très reconnues comme étant des formes évidentes de science-fiction, quoi. Et donc c'est pour ça que je fais un créneau à la fin vers le porno féministe cyberpunk où il y a quelques trucs, il n'y en a pas 500 000 mais il y en a, dans lequel voilà, c'est des formes d'expression artistique au croisement, encore une fois, art, technologie et politique, avec un discours hyper construit, originé sur de la philo et qui utilise vraiment les technologies pour tenir des propos et des créations artistiques qui sont très très cyberpunk.
Oui, la technologie, bah, surtout à Zoom Écologie, bon, on peut la critiquer dans le cyberpunk. On peut se dire qu'il y a un peu une problématique cette banalisation de l'hypertechnologie, de l'Internet dominant. Et on se dit bah, finalement d'où ça vient, toutes ces machines. Et c'est vrai que c'est un imaginaire qui a été perpétué par les technofascistes que nous combattons aujourd'hui, très clairement. Mais dans le cyberpunk, justement, il y a cette idée du mélange, quoi, la technologie a cette fonction de montrer l'hybridation au quotidien, le fait que tout se mélange. Et c'est là où il y aura une piste fertile et intéressante que tu déploies très bien et qui s'incarne un peu dans la pensée de Anna Arendt, et donc l'espèce de, je ne sais pas si tu peux appeler ça la pensée cyborg, en tout cas le travail qu'elle fait sur la notion de cyborg. Et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait finir, parler un peu toutes ces façons de, d'être cyborg, avec Donna Haraway et avec toutes les autres.
Bah oui, Donna Haraway, donc c'est une philosophe qui a utilisé dans les années 80, donc c'était vraiment en même temps que le cyberpunk, la figure du cyborg, donc ces êtres mi-machine, mi-humain, quoi, ou mi-organique, mi-technologique, quoi, pour en faire des figures d'émancipation. Donc c'est vraiment un objet philosophique, hein, c'est pas forcément pratico-pratique, en tout cas pas au départ, pour dire, en fait... Oui, le cyborg est une invention originée de la technosphère capitaliste, du complexe militaro-industriel. C'est Terminator, c'est masculiniste, c'est vraiment les Schwarzenegger militarisés, etc. Donc effectivement, présenté comme ça, c'est pas une figure désirable, c'est pas une figure dont on voudrait se rapprocher. Et Donna Haraway, dans son bouquin fondateur qui s'appelle Le Manifeste Cyborg, elle a retourné cette notion-là en disant, mais en fait, la technologie, elle est là et elle contribue déjà à nous façonner et à nous construire. Et on a déjà un rapport, même en la critiquant, en fait, qu'on le veuille ou non, elle est là. Là, nous, on parle dans des micros, on est diffusé. Sur les ondes et sur Internet, etc. Donc, de fait, on utilise aussi la technologie. On est en fait indissociable de cette technologie. On mange des objets technologiques. On vit dans des sphères technologiques, dans des villes, etc. Et donc, à ce titre-là, on peut retourner la figure du cyborg pour en faire une figure d'émancipation. Et ça, c'est vraiment le truc de Donna Haraway, l'apport principal, qui est de faire une figure, enfin, de faire du cyborg une figure non pas masculiniste et militariste, mais une figure non binaire, féministe, etc., en utilisant en fait ce qu'elle appelle la porosité avec le milieu des cyborgs qui en fait se construisent avec leur environnement, leur entourage. Alors on peut penser évidemment à tous les déterminismes sociaux, psychologiques, etc., qui font que nous sommes ce que nous sommes. Et à ce titre-là, c'est évidemment fascinant, quoi. J'avais un autre truc à dire, mais je l'ai oublié sur Donna Haraway, sur le cyborg.
Je vais profiter de... Si jamais ça te revient, tu me dis. Je profite pour dire que du coup, le cyborg aussi, c'est l'hybridation des langues. Et c'est peut-être en ça qu'on a un héritage du cyberpunk. Où, dans le cyberpunk, il y avait ce truc de parler anglais, parler japonais, mettre des mots comme ça de japonais au milieu d'autres choses ou d'espagnol. Enfin, cette espèce de multiculturalisme états-unien qui s'ancrait dans le cyberpunk. Et ça se retrouve dans la science-fiction aussi contemporaine de manière assez progressiste.
Oui. Bah oui, exactement. Et du coup, ça me fait penser à ce que j'avais perdu comme idée que je viens de retrouver. C'est que Donna Haraway, elle a ce mot que je trouve fascinant, qui est de dire, en fait, le principe même du cyborg, contrairement au monstre de Frankenstein, à la créature de Frankenstein, le cyborg, en fait, il est infidèle à ses origines. C'est-à-dire qu'il est effectivement fabriqué par une technosphère capitaliste, militarisée, etc. Mais dans toutes les œuvres de science-fiction, ou pas toutes, mais un grand nombre qui mettent en scène des robots, et ben les robots, ils s'émancipent, ils s'évadent et ils partent vivre leur vie et ils inventent de nouvelles façons de vivre, en fait, tout en, c'est pas reniant le monde dont ils sont issus, mais en composant avec, quoi, et en faisant, en inventant un nouveau sens à la vie. Et je trouve que ça, c'est une très bonne inspiration, en même temps qu'un beau mot de la fin, sans doute.
Absolument. Et nous allons nous évader en musique et sûrement vers encore d'autres sphères. Merci Antoine.
Merci à toi.